Richard Cadou, ben voilà, pasteur à l'oratoire depuis le 1er juillet. Les vacances sont terminées, ça y est, ça commence. Je ne suis pas huguenot, hein, vous le savez sans doute, je viens du catholicisme. J'ai passé un demi-siècle dans le catholicisme, j'ai été prêtre, et puis à la suite d'un cheminement assez long, qui a d'ailleurs commencé ici à l'oratoire, je suis devenu protestant. J'arrive, très concrètement, j'arrive d'Ardèche, de la paroisse de Vernoux, vraiment dans un vieux terroir huguenot, où j'ai passé 5 années très, très agréables. Voilà, donc je suis heureux de vous retrouver ce matin, en ce midi, en ce mi-temps du jour, pour ce temps d'échange sur la Bible, dans un cycle que nous avions élaboré avec Marc au printemps et qui porte sur les visites de la Bible.
Bienvenue à vous.
Merci. Avant que nous nous plongions dans l'étude elle-même, je vous propose qu'on se recueille quelques instants. Seigneur, tu nous vois arriver de divers horizons. Nous sommes heureux de nous retrouver en ta présence. Envoie dans le cœur de chacun d'entre nous ton esprit pour que notre intelligence et notre cœur en soient illuminés, afin que nous entrions plus avant dans l'intelligence des Écritures. Amen. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose une lecture d'un évangile extrêmement classique, l'évangile de la Visitation. Alors il y a eu une petite coquille, ce n'est pas Luc 2, 39-56, c'est Luc 1, 39-56. Je vous fais passer le texte que j'ai donc photocopié. La traduction à la Bible de Jérusalem. Voilà, celle-ci, c'est la Bible de Jérusalem. Je viens avec la nouvelle Bible Second, mais j'ai pris la traduction dans la Bible de Jérusalem. Je vous propose de lire tout simplement le texte déjà à haute voix. Hein, En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit: Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante, oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors j'ai toujours l'habitude, dans le cadre d'une étude biblique, de donner immédiatement la parole à ceux qui rejoignent. Si vous avez des questions, des remarques, des indignations, voilà, on peut commencer par en faire part aux autres dans
Moi,
un premier temps.
J'aime pas l'abaissement.
Abaissement,
j'aime
oui.
J'aime mieux son humble servant. Mmh.
Problématique de l'abaissement, en effet. D'autres remarques?
Oui, désormais, toutes les générations me diront bien heureuse.
Peut-être.
Laisse fermer là.
Oui.
Qu'est-ce qu'on met sur le bien heureuse?
Oui, la question du bonheur, finalement. Hein, et de, qu'est-ce que c'est qu'être bien heureux. Bonjour.
Pour moi, c'est surtout un passage qui a été énormément illustré dans l'histoire de l'art musical et particulièrement pictural et statuaire. Et moi, je vois tout de suite énormément d'images. Ouais. C'est toutes les images, mais là, c'est celle-là. Une abondance et une variété... L'image est souvent très codée.
Oui, il y a un texte qui a été envahi, enfin, par
envahi
l'image.
Et par des images qui sont comme assez stéréotypées. Okay.
Pour moi, le culte marial, je l'ai perçu surtout chez les catholiques.
Oui.
Parce que je suis d'éducation, je suis vraiment protestante depuis le début. Et je me sens que chez les protestants, pas peu de Marie.
Oui.
Sauf des derniers temps, on commence à écrire un petit peu. On parle de l'Immaculée Conception, mais c'est très développé, illustré, ça va être malgré tout chez les, dans le catholicisme, très peu dans le protestantisme. Cet aspect du culte marial est profond.
Il y a un refus très net dans la réforme d'un culte rendu à Marie.
Oui.
Hein. L'adoration est rendue à Dieu seul. Il reste qu'ensuite, Marie est un personnage biblique. On peut donc en parler. Et ensuite, il est vrai aussi qu'il y a une théologie mariale qui s'est développée dans le catholicisme au fil de l'histoire et en effet dont on peut s'interroger sur sa cohérence avec le donné biblique, en particulier la promulgation de dogmes au XIXe et au XXe siècle au sujet de Marie, difficile de lui retrouver des fondements bibliques.
C'est surtout aussi comme avec Marie qu'on confondait les protestants.
C'est-à-dire
pendant les guerres de religion.
Oui, c'est vrai que...
En leur demandant de faire un hommage à Marie, c'est là qu'ils se faisaient attraper.
D'ailleurs, souvent, une réflexion de catholiques, c'est de dire « Les protestants ne croient pas en Marie. »
Oui,
alors,
oui.
Voilà, donc bon, c'est une maladresse de... à la fois une vérité, voilà, bien évident que il n'y a pas cette... par faire de Marie un personnage divin, hein, c'est une femme comme d'autres, qui joue un rôle dans l'histoire du salut, et c'est ce rôle dans l'histoire du salut qu'il est intéressant de considérer, hein, comme pour tout personnage biblique. Et on pourrait faire une anthologie protestante, d'ailleurs, de textes sur Marie, depuis le commentaire du Magnificat par Martin Luther, hein, qui est disponible, jusqu'à des textes très, très récents. Hein, je pense, par exemple, à des articles de France Quéré, hein, qui ont été recueillis, d'ailleurs, et publiés, où il y a une approche très, très biblique du personnage de Marie, sans aucune concession à une mariologie ou à une théologie de Marie qui se refuse à placer Marie dans la sphère du divin.
Il s'appelle comment ce...
Alors France Quéré, ben je crois que c'est Marie, tout simplement.
Marie.
Oui, c'est paru chez Desclée de Beauvert il y a déjà une une vingtaine d'années. C'est un très beau livre d'ailleurs, parce qu'il est très bien, il a été bien illustré. Et c'est une belle réflexion biblique sur, le rôle, la figure, la personnalité de Marie, avec la finesse que pouvait avoir France Quéré quand elle abordait ces sujets.
Ah oui, France Quéré était formidable. Oui.
Moi, en tant que protestant, il y a une chose qui me choque. Je travaille dans une maison de retraite où il y a des catholiques et des protestants. Donc, bon, il nous arrive à dire « Je vous salue Marie, Mère de Dieu ».
Oui.
Ça a du mal à Mère de Jésus, Mère du Seigneur.
Moi, je suis né d'une famille protestante, mais par les hasards de la vie, j'ai passé une grande partie de mon enfance en orphelinat. Et à l'époque, dans les années 50-60, c'était donc forcément des religieux. Quoi. Et donc, je me suis tapé « Je vous salue Marie » tous les soirs avant de se coucher.
Et moi, j'ai le souvenir, c'était la prière du soir, de femmes qui disaient le chapelet pendant la messe.
Ah ben ça, c'est ce que faisait Saint François de Sales. Il récitait le chapelet pendant la messe pour une raison très simple, parce que la messe était un spectacle, et beaucoup de gens le faisaient en effet, parce que la messe était un spectacle incompréhensible, hein, surtout à une époque où la liturgie était en latin. Donc pour utiliser ce temps d'une manière pieuse, les gens, de fait, certaines personnes très dévotes, récitaient le chapelet. Alors, je vous propose quelques réflexions, d'abord, sur ce texte.
Ça revient au texte. Oui. C'est que Marie, enfin, d'après le texte, elle s'est sauvée quand même un petit peu. Elle est partie voir sa cousine, c'est pour rien, hein, c'est parce qu'il fallait qu'elle fuit quelque part. Hein. Et je pense qu'il y a ce gros problème-là, à la base. Mais je pense qu'il faut revenir à cette petite Marie qui a dit oui.
Alors, je vous propose quelques réflexions, hein, et puis ensuite on pourra échanger. Une introduction très, très générale pour dire que dans les évangiles, ce qui est central, c'est l'annonce de la résurrection. Les évangiles, finalement, ont été rédigés pour proclamer cette foi des communautés chrétiennes, cette foi de l'Église, en la résurrection du Christ. Mais aussi, je pense qu'ils ont été rédigés pour répondre à une question qui est d'ailleurs liée à la proclamation du message pascal. Ce crucifié ressuscité, finalement, qui est-il? Et l'Évangile, d'une certaine manière, nous décline l'identité de Jésus dévoilée à la lumière de l'événement de Pâques. Voilà, c'est l'événement de Pâques, de la résurrection, qui projette une lumière sur la personnalité de ce Jésus. Et bien sûr, quand les chrétiens, en s'interrogeant sur l'identité de cet homme, ont bien été amenés à s'interroger peu à peu sur l'origine, d'où vient-il ce ressuscité, à s'interroger sur son humanité, sur sa naissance, sur son enfance. Et c'est pour répondre à ce type d'interrogation qu'ont sans doute été rédigés ce que nous appelons, nous, les évangiles de l'enfance, hein, qui ne sont pas absolument indispensables au récit, puisque par exemple l'évangile de Marc nous fait entrer dans l'évangile avec le surgissement de Jésus au bord du Jourdain, qui vient se faire baptiser par Jean. Marc ne nous dit rien de la naissance et de l'enfance de Jésus. Matthieu et Luc ont éprouvé le besoin de le faire, et ces textes consacrés à l'enfance de Jésus présentent bien sûr beaucoup de difficultés. Il ne faut pas se le cacher. des difficultés littéraires, tout d'abord, puisque ce sont des textes sans doute rédigés très tardivement. On dit Luc et Matthieu des années 70-80, donc bien après l'événement de la naissance de Jésus, et puis parce qu'ils présentent un genre littéraire extrêmement particulier, alors que plus souvent dans les évangiles synoptiques, les récits sont organisés autour de paroles de Jésus, avec les récits de l'enfance de Jésus, aussi bien dans Luc que dans Matthieu, nous avons des narrations très amples, très imagées, hein, elles sont propices en effet à la représentation, avec des allures de contes finalement. Et puis, s'il y a des difficultés littéraires, il y a aussi énormément de difficultés proprement historiques, hein, car bien évidemment, l'historicité de ces textes est problématique. Voilà. Personnellement, je le dis d'emblée pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne pense pas que les choses se soient réellement passées comme elles sont racontées dans l'évangile de Luc. D'ailleurs, peut-être le meilleur moyen de s'interroger sur l'historicité de cet évangile, c'est de comparer Matthieu et Luc, hein, qui, nous racontant la même histoire, ont des approches assez différentes l'une de l'autre. Alors, dans cette perspective, j'ai envie de dire que les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc constitue ainsi un prologue christologique à l'ensemble de son œuvre, à l'ensemble de son évangile, hein, puisque Luc rédige une espèce d'histoire du christianisme, hein, qui comprend à la fois l'évangile et le livre des Actes des Apôtres, et qui nous montre comment la parole de Dieu se déploie, d'abord à travers l'apparition de ce personnage, Jésus, puis ensuite avec la naissance de l'Église. J'ai dit prologue christologique, puisque des titres sont attribués à ce Jésus dans ces deux chapitres, notamment le titre de fils de Dieu, et que sa mission est déjà présentée, hein, à travers ces textes, notamment le Magnificat et le Bénédictus, la prière qui sera entonnée par Zacharie. Alors, dans ces deux premiers chapitres de Luc, l'auteur emploie un procédé assez caractéristique de la littérature antique. Il emploie le procédé des vies parallèles. Hein, il met en parallèle deux personnages, Jean et Jésus, hein, qui sont en quelque sorte les deux vedettes de ces deux premiers chapitres. Jean est mis en valeur, hein, mais il est présenté surtout en fonction de la personne de Jésus qui le surclasse entièrement. Et les deux chapitres, Luc 1 et Luc 2, sont finalement organisés selon une structure assez simple. Luc 1, qui correspond au temps des annonces, et Luc 2, qui correspond au temps des accomplissements, finalement. De l'accomplissement des promesses, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Le chapitre premier de Luc, on pourrait lui-même le couper, enfin l'organiser en trois parties. Une première partie qui est centrée autour de l'annonce de la naissance de Jean. Une deuxième partie, avec le récit de l'Annonciation, centrée autour de l'annonce de la naissance de Jésus. Et puis, un troisième temps dans ce chapitre 1, celui que je vous proposais aujourd'hui, Luc 1, 39-56, la visite de Marie à, à Élisabeth. Donc, une des visites et il y en a dans la Bible, visitation, hein, puisque c'est le terme sous lequel cette visite est ancrée finalement dans la légende sacrée du christianisme. Et le récit de cette visite fait finalement le lien entre les deux récits d'annonce, l'annonce de la naissance de Jean et l'annonce de la naissance de Jésus, qui occupe le début du chapitre. En Luc 1, au verset 36 à 37, nous avons en quelque sorte une annonce de ce qui va se passer, puisqu'il est dit, c'est au moment de l'Annonciation, de la visite de l'ange à Marie, Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. En quelque sorte, l'ange adresse un signe à Marie de la part de Dieu. Et c'est là-dessus, après le départ de l'ange, que débute donc la péricope que j'ai retenue. Donc au verset 39, on nous dit que Marie se met debout, qu'elle se met en marche et qu'elle part avec hâte. Alors dans ce verset, Luc veut mettre en valeur, je pense, la disponibilité de Marie et l'harmonie qui existe entre le projet de Dieu et sa foi personnelle. Hein, c'est assez caractéristique de voir dans la Bible que les personnages se mettent en marche dès que l'action de Dieu se fait sentir. Hein. Il est question de se mettre debout, de se mettre en marche, de partir avec zèle, avec hâte. Hein. D'autres personnages bibliques se lèvent de bon matin, et quand un personnage biblique se lève de bon matin, ce n'est pas qu'il a mis son réveil tôt, mais c'est qu'il est vraiment pris par l'Esprit de Dieu et qu'il a envie d'y aller. Mais tout se concentre, d'ailleurs c'est rédigé avec une grande concision, tout se concentre au verset 40 sur le terme du voyage. Finalement, Luc ne nous dit très très peu de choses sur cette pérégrination. On est, à peine est-elle partie, cette Marie, qu'on la voit entrer chez Zacharie et elle salue Élisabeth. Donc vous voyez là, le voyage est ramassé en un très court instant et on se retrouve chez Élisabeth. Verset 41, il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors là, nous avons une grande scène d'effusion de l'Esprit liée à la prononciation d'une parole qui est une parole de salutation. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Dans son ventre, l'enfant bondit de joie. Donc là aussi, l'enfant bénéficie de cette effusion de l'Esprit. Et Marie elle-même est remplie de l'Esprit Saint, puisque au verset 47, un peu plus loin, elle dira « Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur ». Donc là, on est devant une grande scène finalement charismatique, l'Esprit. L'Esprit est répandu à profusion sur les trois personnages qui sont réunis dans cette rencontre à l'occasion de cette visite. Nous avons ensuite la réponse d'Élisabeth à la salutation de sa cousine. Donc là, l'Évangile nous fait entendre une parole prophétique dans l'Esprit. Élisabeth se situe en position de prophétesse. Sa prise de parole, elle est multiple. Hein. Je crois que si on cherche à l'analyser, on voit d'abord que c'est une parole adressée à Marie. Une parole adressée en tu, une parole de bénédiction. Marie est bénie, l'enfant aussi. Béni de Dieu, c'est ce qu'on appelle un passif divin. Hein. Elle est bénie par Dieu. Et Élisabeth précise aussi qu'elle est la plus bénie de toutes les femmes. Donc il y a une parole adressée à Marie qui vient confirmer finalement la parole que l'ange lui avait déjà adressée en lui disant qu'elle était comblée de grâce, qui est charitoménée. Alors ensuite, cette parole d'Élisabeth, c'est aussi une parole sur elle-même. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Au verset 43.
Justement, moi, ce qui me frappe dans cette visite, c'est que souvent, dans les visites qu'on trouve dans la Bible, la visite est destinée à quelqu'un, plutôt la personne visitée d'ailleurs. Ici, la visite est bénéfique aux deux parties. Mm-hmm. Et l'iconographie nous montre bien deux personnes tout à fait à égalité dans l'iconographie. Hein. Donc, c'est comme ça me rappelle le verset qui dit lorsque vous vous réunissez en mon nom, je suis parmi vous. Voilà. Et pour moi, cette visite est très originale de ce point de vue-là, c'est que les deux personnes en bénéficient autant l'une et l'autre et sont toutes les deux confirmées dans leur mission.
Tout à fait, hein, tout à fait. Il y a une reconnaissance, une reconnaissance qui se place sous, en quelque sorte, l'égide d'un tiers qui est justement cet esprit de Dieu hein, qui tombe sur ces deux personnes et qui en effet est présent au milieu d'elle.
Parce qu'on peut se demander pourquoi elle ne fait pas la confidence à sa propre mère qui elle-même bénéficie d'une autre tradition, d'une naissance miraculeuse et ainsi de suite. Non, là il faut qu'elle aille ailleurs.
Oui.
Pourquoi, comment le sait-elle? Un peu mystère, vous avez posé la question. Pourquoi est-ce que c'est là qu'elle va?
Pourquoi la constatation?
Pourquoi est-ce qu'elle, au lieu de le dire à Anne, il faut qu'elle le dise à Élisabeth?
Pourquoi? Alors, est-ce que vous avez
Moi, je pense que ça a dû faire plaisir à la mère hein, de voir sa fille enceinte.
Si on vraiment on est dans la démarche du texte biblique, je pense que c'est difficile de faire intervenir un personnage comme Anne, parce qu'on entre dans un domaine qui n'est plus celui de la Bible. Voilà. Il est intéressant de voir que justement, l'Évangile ne nous dit rien des parents, de la mère de Marie. Hein. Par contre, et je pense que vous nous indiquiez une piste, c'est que Marie a reçu ce message de l'ange qui lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur et que il y a une interrogation de Marie qui est d'ailleurs portée dans le récit de l'Annonciation et qu'elle fait ce déplacement comme vous venez de nous le dire vers sa cousine Élisabeth qui elle aussi bénéficie d'une intervention gracieuse de Dieu qui va faire qu'elle va donner la vie alors qu'elle est stérile. Donc on a deux femmes en fait, l'une qui a dépassé l'âge où l'on a des enfants, l'autre qui est au seuil de sa vie de femme, et c'est la rencontre mutuelle de ces deux personnes qui va être le lieu où elles vont vérifier la vérité de ce qui est en train de se passer dans leur vie, à travers un échange de paroles, Et c'est ça où je trouve que l'évangile a quelque chose de foncièrement humain. Voilà. Que on nous parle d'événements absolument hors du commun.
Voilà.
On va dire une femme vierge qui est enceinte, et une femme ménopausée qui l'est aussi. Alors ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça ?
On sait faire maintenant.
Oui, mais à l'époque, on savait pas faire. À l'époque, on savait pas faire. Et
non, mais elles se soutiennent l'une l'autre aussi, hein, parce qu'elles sont peut-être un peu angoissées quand même.
Mais simplement, voir Elisabeth pour lui éviter de sortir, enfin, finalement, de dire quelqu'un qui a l'âge de mon mère, qui est enceinte pour la première fois. C'était un petit peu pour éviter qu'on se
moque
partout d'Elisabeth, peut-être, non ?
Là, je pense qu'on entre dans des supputations, enfin des interprétations psychologisantes qui sont pas inintéressantes, mais qui ouvrent la porte à tout ce qu'on trouve dans la littérature apocryphe. Hein. Notre imagination, qui fonctionne bien et avec intelligence, supplée à ce que ne nous dit pas le texte. Ici, le texte nous dit simplement que ces deux femmes qui ont vu Dieu intervenir dans leur vie d'une manière absolument bouleversante, se rencontrent, se reconnaissent et trouvent dans cette aide fraternelle la confirmation de quoi, finalement ? De leur vocation. De leur mission. Et c'est en ce sens que la visite, je dirais que c'est l'échange de leurs paroles qui médiatise finalement l'intervention de la parole de Dieu dans l'histoire des hommes. Voilà. J'anticipe un peu sur ma conclusion pour dire que, si vous voulez, salut et salutation ont quelque chose à voir. Le salut de Dieu, il se manifeste toujours dans le plus concret de nos existences et de nos vies. Et que ici, ce salut, en effet, qui dépasse ce que l'homme peut en penser, l'entendement humain, il prend la forme d'une salutation réciproque, d'une reconnaissance entre deux femmes qui sont l'une et l'autre porteuses, qui ont reçu une promesse et qui sont porteuses de la vie. Donc là, d'une certaine manière, la question d'Elisabeth, hein, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur, c'est une question sans réponse. La réponse, elle est donnée dans la mise en scène du récit. La parole d'Élisabeth, c'est une parole aussi sur Jean. Hein. L'enfant a bondi d'allégresse. Lui aussi fait partie de la... Il est touché par cette manifestation du salut. Et puis, Élisabeth a aussi une parole sur Marie. Alors, une béatitude. En effet, on peut s'interroger sur... Qui célèbre celle qui a cru, voilà... Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous titiller sur ce terme bienheureux ? Qu'est-ce qui pose question ?
Moi, je reviens toujours. Si on patauge un peu dans les autres écrits de l'Évangile, oui. On trouve quand même, ça va peut-être vous sembler à côté de la plaque, mais on trouve quand même ce Joseph qui n'était pas, il n'était pas marié, hein, mm-hmm. et il se trouve avec une femme enceinte.
Oui, hein, c'est vrai.
Donc là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, c'est pas écrit, c'est pas, mais on sait pertinemment maintenant que c'était hors de question qu'une une jeune femme enceinte sans mari, la sentence c'était la lapidation, la mise à mort, et quelque part, quand j'ai dit elle s'est sauvée, alors bien sûr, je suis beaucoup imaginative peut-être, mais je me dis, et pourtant, toutes les générations me diront bienheureuse, bienheureuse. Pourquoi ? À cause de son oui, de son fiat. Elle aurait pu dire non. Moi, je crois que dans sa situation, j'aurais dit non, je me serais sauvée.
C'est là sa foi. Oui. D'avoir accepté. C'est pas facile.
Alors, est-ce que Dieu se débrouille toujours pour. C'est gros ce que je veux dire, pour arriver à ses fins, quoi.
Non, j'avais pas vraiment une question.
Est-ce que Dieu, quand il veut quelque chose, il réussit et que ça se passe bien en fin de compte? Ouais. Et c'est pareil pour nous tous.
Oui. C'est l'ange, peut-être, qui a reconnu le signe et elle a accepté de faire cette mission qui nécessite beaucoup de courage, mais il y a surtout la foi, je pense, que le courage pour cette femme.
Pour ma part, je suis extrêmement sensible à la fin du récit. La fin du récit, verset 56, elle s'en retourna chez elle. C'est une très brève rencontre et elle rentre chez elle. Elle ne rentre pas chez Joseph, elle ne rentre pas chez ses parents, elle rentre chez elle. On ne dit pas d'ailleurs c'est quoi ce chez-soi, chez elle. Il y a la solitude d'une femme qui pour moi est, je la réfère à finalement à la solitude du croyant au sens de responsabilité personnelle. Il y a ce moment où finalement Marie sort de sa solitude, sort de cet entretien avec l'ange, voilà. Et elle va y retourner et il y a cet intermède qui est fait d'une rencontre. Et je pense que là, on touche à travers ce bienheureux quelque chose du paradoxe de l'Évangile. Hein, voilà, dans une situation humaine complexe et qui n'est pas nécessairement bienheureuse au sens où nous l'aimerions l'entendre, où nous donnons le sens auquel que nous attribuons au mot bonheur. Néanmoins, il nous est dit qu'elle est bienheureuse. Et là, il y a, je pense, quelque chose du paradoxe de la condition du chrétien qui nous est dit, hein, qui est plus facile de le dire que de l'expérimenter, hein, qu'elle est. Elle fait partie justement de ce monde des béatitudes, ou alors qu'elle est aux yeux du monde digne d'être réprouvée, parce qu'en effet elle est dans une situation que la morale réprouve, dans un monde voilà, où ce genre de conduite est impensable. Néanmoins, l'Évangile nous dit qu'elle est bienheureuse, voilà, que sous le regard de Dieu, elle est bienheureuse. C'est comme ça que j'entends. Mais...
Oui, elle a exalté Dieu aussi, hein, de toute façon, dans le Magnificat.
Pardon.
Elle a exalté Dieu.
Oui.
Et puis, elle reste 3 mois quand même, hein, comme autrement. Donc, c'est un certain temps.
Mais bon. Là, on est en pleine lumière aussi avec ce texte qui a été écrit par des chrétiens de l'Église. Hein, et justement, dans cette lumière de leur foi, à travers leur foi à eux, ils nous donnent ce texte pour. C'est venu jusqu'à nous. C'est leur foi qui nous est transmise.
Tout à fait.
Hein, dans leur lumière. Donc avec peut-être une mise en scène un peu différente d'un évangile à l'autre.
Oui, bien sûr.
Parce que dans l'autre, je ne sais plus lequel, mais dans un autre évangile, elle est restée 3 mois avec Élisabeth. Jusqu'à l'accouchement.
C'est ici.
C'est dans celui-là aussi.
Elle reste.
Vous voyez, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout.
Marie demeura avec André en 3 mois. Mais ce qui peut être intéressant, c'est une interrogation sur les béatitudes. Quand nous proclamons les béatitudes, et que par ailleurs, dans le cours de notre vie, nous faisons l'expérience de ce qu'est la vie, qui n'est pas nécessairement ce qu'on entend par bonheur. Voilà. Qu'en est-il finalement ? Pouvons-nous proclamer des béatitudes alors que la vie se déroule comme elle se déroule.
Mais justement, les béatitudes sont destinées aux affligés.
c'est bien ce qui est écrit.
Oui.
Donc là aussi, Marie dans cette situation difficile. Si. De même que les béatitudes, c'est pour les affligés, pour les affamés, pour les pauvres dans l'esprit.
Donc elle est.
Donc
elle
les béatitudes, c'est bien fait pour ceux qui en ont besoin.
Donc elle est évangélisée. C'est-à-dire qu'Elisabeth lui annonce une béatitude pour elle. Alors qu'elle est dans cette situation où elle pourrait en effet être catastrophée. Elisabeth, une sœur dans la foi, lui dit « Bienheureuse es-tu, car la parole de Dieu est en train de s'accomplir dans ta vie. »
C'est souvent quand tout va mal qu'on est plus prêt à recevoir.
Mais on retrace les bénédictions quand on est quelque part, même si tout va bien. Aussi, c'est important que ça se rappelle. Non ?
Je serais curieux de savoir ce qu'en penserait la Rabbin Robiller.
Ah.
Parce qu'elle parle tellement bien de la position des femmes dans le judaïsme et dans la révélation de la foi, que je serais curieux de savoir ce qu'on penserait.
De qui vous parlez?
Orwiller, la rabbin.
Ah oui, pardon, j'ai pas entendu.
Parce qu'elle parle tellement bien des femmes dans la foi, aussi dans le judaïsme, tout ça. C'est tellement magnifique. Ouais, j'ai même entendu, j'ai vu par hasard un documentaire où elle discutait avec la chef de file des FMM. Et voilà, c'est quand même, je veux dire, à la fin, l'autre, la FMM, elle était quand même...
Elle
était un peu ébranlée quand même. Vraiment tellement...
Moi, je reviens au début.
Oui.
Ça me paraît important, ce « en hâte ». Elle se rendit en hâte.
Ah, c'est ce qu'elle disait, elle fuit, en fait, quand c'est ça.
Ah, j'ai pas entendu.
Le « hâte », c'est le... C'est le signe de, je pense, de sa détermination, de son zèle. Elle est portée par la parole qu'elle a reçue de Dieu. Moi, je n'accentuerai pas la dimension de fuite, mais c'est une lecture possible. Hein. Il y a quelque chose aussi d'exotique dans une perspective biblique. Elle doit va sur la route, tu pars vers un inconnu. Tu pars vers un inconnu.
C'est pour ça que ça nous ramène à l'aujourd'hui, oui. Enfin, que nous ramène chacun à notre condition.
Oui, je pense que elle se rassurait aussi.
Bah oui,
bien sûr.
Ah, mais bien sûr, il y a une aide fraternelle, oui. Une aide sororale. Il y a aussi quelque chose qui nous est dit de cet ordre-là. Marie est devant un inconnu. Comment cela va-t-il se faire? C'est la question qu'elle pose à l'ange. Et elle est devant un inconnu, et je pense que ça nous arrive tous. Moi, ces jours-ci, je suis quand même devant un grand inconnu. Hein, voilà. Et la réponse qui lui est... la Bible nous laisse entendre, elle y va. Elle y va. Elle est en hâte, avec zèle, elle marche... Elle est comme Abraham, comme ceux qui se lèvent de bon matin, qui scellent leur âme et qui partent. Voilà. Donc elle y va. Voilà. En marche. Alors.
Mon Dieu. Des enfants.
Oui, bien sûr. Voilà.
Jésus est présenté au Baptiste, en quelque sorte.
Ah oui. Oui, il y a aussi cette dimension, hein, donc je vous le disais dans l'introduction, ce profil parallèle, Jean et Jésus. C'est vrai que c'est une question qui est, j'allais dire, embêtante pour les premiers chrétiens. Hein, c'est toute la question du rapport entre Jean et Jésus. Hein, puisque si on lit bien les choses, on a tendance à se dire qu'en fait, Jésus, c'est d'abord un disciple de Jean. Et puis, pour dire les choses un peu trivialement, un jour, Jésus s'est mis à son compte et a pris son envol. Et il s'est séparé, il a dit un au revoir à Jean. Et que là, Luc est en train de nous rappeler, de nous dire, voilà, finalement, dès le sein de la mère, c'est bien Jésus qui a pris la primauté et la priorité sur Jean. Hein.
Mais en fait, on a un peu le sentiment, enfin, pas peur, mais qu'il y a un peu le même rapport entre Jean et Jésus et Élisabeth et Marie. C'est-à-dire une même sorte de sentiment de transcendance quand même dans le personnage qui est décrit là. Parce que autant on sent bien que Élisabeth est persuadée du bonheur de Marie, autant on n'est pas tout à fait persuadé que Marie partage ça. Elle est heureuse d'une sorte de don de Dieu, mais moi je ne ressens pas le même bonheur chez elle ou certitude de bonheur. Elle dit,
oui.
Ils me diront bien heureuse, mais elle ne dit pas qu'elle est bien heureuse, et on ne le sent pas parce que très vite, elle part plutôt dans une sorte de louange très générale, en fait, très mystique, alors que Élisabeth est vraiment plutôt dans le registre de la maternité, de la... Et en fait, on pourrait presque ressentir que c'est plus Marie qui annonce quelque chose à Élisabeth que Élisabeth qui annonce quelque chose à Marie. Enfin, il y a une sorte d'inversion comme ça.
C'est comme un livre.
C'est vrai que là.
Elle ressent.
Oui, pardon. Allez-y. Non.
Peut-être qu'elle ressent déjà dans cet enfant qui n'est pas son enfant. En fait.
Oui, il y a un détachement. En fait.
Il y a un détachement dès le départ, puisque c'est.
Qui est étrange.
Parce que oui, mais elle le pressent peut-être, mais
c'est pas elle très symbolique, la fin.
Oui.
Il y a un peu étrange, hein, dans ce texte.
J'ai vu chez Marie quand
elle dit cet enfant qui n'est pas son enfant.
Oui.
Il n'a pas été.
C'est pas sa propriété, elle. Ce ne sera pas un enfant comme la maternité chez. Oui. Elle va donner naissance à cet enfant qui sera le sauveur du monde, le fils de Jésus crucifié. Si elle savait à l'avance, est-ce qu'elle le ressent, est-ce qu'elle pressent déjà ce destin? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est difficile.
C'est quand même un personnage tragique.
Oui,
c'est son enfant. Oui. Elle attend son enfant et elle le conduira et elle l'accompagnera jusqu'au bout. Jusqu'au calvaire, même si elle n'est pas tout près, peut-être, parce que ça ne devait pas être tout près. Mais je pense que si, c'est son enfant.
Oui, mais
c'est
la mère
de Jésus.
Oui, elle est la mère de Jésus.
Oui, mais peut-être qu'elle a cette double, justement aussi, qu'elle est à la fois.
Elle prendra les choses. Je pense qu'elle va prendre les choses dans la foi. Elle prendra les choses et les événements comme ils vont se produire, comme la vie. Quoi. Et elle va. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas.
Jésus va lui dire ce n'est pas encore l'heure, elle mourra.
Ce qui me paraît remarquable, c'est que, en effet, il y a une réponse de Marie. Hein, une réponse de Marie à la parole d'Élisabeth. Et que, on vient de nous le dire, cette réponse, en effet, elle n'est pas du tout centrée sur les états d'âme de Marie. Voilà. Aucune expression de ce qu'il habite. Il n'est absolument pas question dans la parole de Marie, dans ce qu'on appelle le Magnificat, il n'est pas du tout question de l'enfant qui va naître. Il en sera au contraire beaucoup question dans le Bénédictus. C'est Zacharie qui développera un discours sur Jésus. Et que, par contre, la totalité du Magnificat, du discours de Marie, on vient de nous le dire, il est centré sur Dieu, finalement. C'est un discours théologique.
Sur ce qu'elle a retenu de tout de ce qui a précédé.
Donc, il y a un décentrement de Marie par rapport à sa propre maternité, par rapport à l'enfant. Elle recadre les choses sur Dieu. Donc, ce très beau cantique, mais je m'aperçois que j'ai plus beaucoup de temps pour vous en parler. Sans doute, alors on s'interroge beaucoup, on trouve ça dans tous les commentaires, est-ce que c'est une composition originale de Luc, ou Luc a-t-il repris une hymne chrétienne? En tout cas, les deux sont défendables. Hein. En tout cas, c'est un texte qui est lesté de références vétérotestamentaires, très inspiré du cantique d'Anne, hein, le premier livre de Samuel, chapitre 2. Là aussi, une femme qui, euh, qui a donné naissance alors qu'il n'y avait plus guère d'espoir que cela se fasse. Et ce Magnificat, c'est essentiellement, je le dis, une prière de louange à Dieu, hein, qui reconnaît et qui célèbre la grandeur de Dieu, hein, qui s'organise finalement en deux parties, hein, une première, hein, bon, là aussi on peut faire tous les découpages qu'on veut, moi pour ma part j'aime bien faire une coupure entre une première partie que j'organise autour des versets 48 et 49, où finalement il est question de ce que Dieu a fait pour Marie. Hein. Il a porté son regard sur elle, hein, sur la servante du Seigneur. D'ailleurs, là, je vois dans la traduction, le verset 49 traduit le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem. Le grec dit « dunatos », le puissant. Hein. Donc, il ne faut pas surinvestir. Et puis, une deuxième partie, beaucoup plus générale, hein, qui est en quelque sorte un tableau de ce que Dieu a fait pour son peuple, hein, avec la mise en œuvre de parallélisme qui oppose la force de Dieu à l'orgueil des puissants, qui oppose les puissants et les humbles, qui oppose les affamés et les riches, hein, dans une finalement mise en scène très, très évangélique, hein, de cette opposition entre Dieu qui est du côté des petits, des faibles, et les autres, les puissants, qui sont renversés de leur trône. Et les bénéficiaires, finalement, de l'action de Dieu sont ceux qu'on abaisse, hein, sont ceux qui sont abaissés, justement. Alors là, il y a en effet une réflexion à mener sur qu'est-ce qu'il faut entendre par abaissement, par humiliation. Je pense que le cantique nous renvoie à ceux que dans la tradition d'Israël on appelle les pauvres de Yahvé, les anavim, qui sont à la fois ceux qui sont pauvres matériellement, ceux qui sont humiliés, qui sont en proie à des situations de domination, et ceux qui trouvent grâce auprès de Dieu, ceux qui, pour qui Dieu a une prédilection. Je pense que là, il y a l'amorce d'un thème qui traverse profondément l'Évangile, hein, qui est une promesse d'ailleurs de réhabilitation de ceux qu'on abaisse et qu'on humilie. Voilà. Même si, alors ensuite, il y a des spiritualités chrétiennes qui mettent l'accent sur l'humiliation, sur l'abaissement. Hein. Je pense qu'il y a une approche un peu biaisée de cette thématique évangélique. En tout cas, le Magnificat insiste sur cet aspect de l'histoire du salut, qui est l'intervention de Dieu au profit de ceux qu'on humilie, hein, qu'on opprime. Et il y a eu ces dernières années, notamment dans le cadre des théologies de la libération, beaucoup de lectures révolutionnaires, politiques, sociopolitiques de ce Magnificat. Mais je vous redonne la parole parce que voilà.
Comme vous posiez tout à l'heure, là, il renvoie les riches les mains vides. Et je disais, même si on est heureux, est-ce qu'on peut bénéficier des béatitudes? C'est un peu ça. Les riches.
Non, ce n'est pas dans ce sens. Vous avez dit, on est tous que quand on est affligé.
Pas
dit
que.
Ah oui, non, j'avais compris comme ça, que souvent on fait appel, Dieu, mon Dieu, aidez-moi. demandant et affligé. Mm-hmm. Or, c'était un rappel que tous les jours, peut-être, si on nous poussait à rendre grâce, les bénédictions même de garder la d'être en vie.
Ne pas attendre d'être affligé.
D'être affligé, voilà.
Mais là, il renvoie les riches des malades. C'est quand même, ça m'a toujours frappé quand on chante ça.
En quoi ?
Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Quoi. C'est, je pense au jeune homme riche. Ouais.
C'est l'annonce d'un renversement. Je pense qu'on peut le lire symboliquement comme l'annonce du renversement qu'introduit l'Évangile. Qu'il y a le monde et il y a l'Évangile. Et que la figure de ce monde, elle est renversée. Qu'on peut croire que ce sont ceux qui ont le pouvoir, l'argent, le savoir, qui finalement ont trouvé grâce, et qu'en fait, c'est le contraire. Qu'il y a une préférence de Dieu, un don à ceux qui, justement, n'ont rien.
Mais devant le jeune homme riche, Jésus regarde avec tristesse.
Oui.
Mais là, c'est déjà là, avant que
Jésus soit né. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être aussi une manière de lire, hein, comme une anticipation. Hein. Les thèmes de l'Évangile sont annoncés dans cet hymne.
Moi, je voudrais signaler, peut-être, d'autres comme moi l'ont lu, un petit bouquin. C'est par Eri de Luca, qui se dit athée, mais qui a quand même appris l'hébreu pour pouvoir lire en direct, entrer dans la parole, sans risque de malentendu, et qui a fait donc un livre, je crois qu'il s'appelle Au nom de la mer, ou quelque chose comme ça, où il raconte la visitation, c'est absolument magnifique.
Je conclue rapidement, parce que le temps est passé très vite. En conclusion, j'aurais aimé vous dire que deux femmes se rencontrent et reconnaissent mutuellement leur maternité. Et lorsqu'on se rencontre, on se salue. On se salue finalement car Dieu intervient et il inaugure son salut à travers des relations humaines. J'insiste, voilà. La salutation est signe de salut. Et on sait l'intérêt que porte l'évangéliste Luc à cette question du salut. Il y a un mouvement dans ce texte. Hein. C'est Marie qui rend visite à Élisabeth et l'attention, elle se focalise sur Élisabeth, dont on entend la parole. Mais il y a un renversement, comme souvent dans l'évangile, avec le mouvement de Jean dans le ventre de sa mère, mouvement par lequel il fait déjà œuvre de prophète et de précurseur, l'attention se retourne vers Marie. Mais au-delà de l'attention accordée à Marie et à Élisabeth, c'est bien sûr Jésus qui est au centre de la scène, et plus encore, à travers la proclamation d'Élisabeth et la réponse de Marie, la présence de Dieu. Hein, Dieu qui agit. Alors, il y a une question que je me suis posée dans ce texte. Dieu qui agit, mais à quel temps ? Est-ce que ce dont il est question dans ce Magnificat, c'est l'action de Dieu par le passé ? Est-ce que c'est l'affirmation de son action de tous les temps ? Ou est-ce que c'est l'indication qu'un nouveau temps est en train de commencer ? Donc je vous laisserai à chacun la liberté d'interpréter l'hymne. En tout cas, je conclurai simplement en disant que c'est une visite qui souhaite de la joie, mais qui ne fait pas que la souhaiter. Elle en procure à tous ceux qui participent à cette rencontre. Et il est peut-être bon de se rappeler que la joie finalement, c'est le signe par excellence de la présence de Dieu en notre monde.